Dans une semaine, les États-Unis vont se réveiller avec un nouveau président officiellement investi, Joe Biden. Donald Trump aura quitté la Maison-Blanche, enfin si le processus de passation de pouvoir n'est pas gravement perturbé d'ici là. Et cela reste malheureusement envisageable, tant les tensions sont vives dans le pays. Ces tensions, le président sortant les a attisées pendant les quatre années de son mandat, en s'attaquant notamment aux grands médias américains et en se servant d'autres. Les médias d'information malmenés par Trump et avec eux, le journalisme, le rapport aux faits. Où en sont-ils après 4 années de Trumpisme? Comment le paysage médiatique américain a-t-il évolué? Et y a-t-il des conséquences sur les médias français? Pour répondre à ces questions, un invité, Alexis Pichard, bonjour.
Bonjour Philippe.
Vous êtes américaniste, chercheur associé à l'université Paris-Nanterre. Vous êtes également l'auteur de Trump et les médias, publié par VA Éditions. Question basique, simple, comment qualifieriez-vous la relation de Trump avec les médias en général?
Alors c'est une question basique mais qui est quand même très complexe. C'est une évolution qui a été à mon sens très très surprenante parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup utilisé les médias dans le début de sa carrière, notamment en tant que média de l'immobilier, et qui a eu une image positive qui s'est transmise par les médias et qui a utilisé à son profit ces médias généraux, donc qui étaient le New York Times, CNN, NBC et les chaînes généralistes, hein, puisque si on se souvient de The Apprentice qui était une émission de télé-réalité, c'était sur NBC qui a été son ennemi juré durant sa présidence. Donc il y a eu un basculement qui a été opéré un peu avant sa campagne de 2015, qui s'est fait à partir d'une droitisation de sa parole politique. Dès lors qu'il a commencé à se politiser, il a plutôt lorgné vers des médias conservateurs comme Fox News et on en évoquera certains autres tout à l'heure. Mais voilà, donc cette guerre s'est créée progressivement dès lors qu'il a cherché à briguer la présidentielle de 2011 et ensuite de 2016, lorsqu'il a vraiment cette fois s'est déclaré candidat et puis devenu président.
Votre livre est sous-titré « L'illusion d'une guerre ». Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Ça revient un peu à ce que j'ai dit dans la précédente réponse, c'est-à-dire que c'est une relation qui a évolué, donc ça n'a pas toujours été une guerre. Comme on l'a vu, il a beaucoup utilisé les médias, et les médias ont aussi beaucoup utilisé Trump, hein, parce que c'est une machine à audience, hein, c'est quelqu'un qui fait le show, qui permet d'atteindre des scores d'audience record, et voilà, donc tous les médias généraux s'en sont bien servis pendant des années. Pourquoi c'est une illusion? À mon sens, parce que les deux parties en guerre, enfin prétendument en guerre, ont tout intérêt à maintenir cette guerre. Donc ils ont passé une sorte de contrat tacite, de complicité tacite, parce qu'ils avaient à gagner. C'est-à-dire que Trump, en tant que populiste, avait à gagner à avoir cet ennemi permanent qui était le représentant de l'establishment, et les médias, sur la même lignée, avaient intérêt financier d'entretenir cette guerre, parce que ça leur a rapporté énormément. Les audiences de CNN et MSNBC ont doublé, triplé, les ventes du New York Times ont été multipliés par je ne sais plus combien, mais en tout cas, il y a eu un impact Trump, un effet Trump sur les ventes. Et donc, on voit pourquoi cette guerre, finalement, a perduré.
Cette guerre, Donald Trump l'a déclarée dès son arrivée au pouvoir, vous en souvenez certainement, c'était le 21 janvier 2017, c'était au lendemain de son investiture en tant que nouveau président. Il y a des photos aériennes qui montrent qu'il y avait assez peu de monde, en tout cas moins que pour Barack Obama en 2019 pour la même cérémonie. L'angle de vue, c'était en 2009, l'angle de vue, c'est important de le préciser, elle-même, mais ce constat, cette réalité, Trump ne s'y fait pas. Il conteste tout ça à travers la voix de son porte-parole de la Maison-Blanche, Sean Spicer.
Certaines images de la cérémonie d'investiture, dans un tweet en particulier, ont été prises de manière à minimiser volontairement le nombre de personnes venues se rassembler sur le National Mall. Pourtant, il n'y avait jamais eu autant de monde pour une investiture. Point final.
Cette déclaration était l'un des premiers chocs médiatiques du mandat de Trump, choc renforcé le lendemain par les mots d'une de ses conseillères, Kellyanne Conway, qui parle alors de faits alternatifs. Quelles vont être les conséquences de cette séquence sur les médias américains ?
Il va y avoir du coup une scission assez nette entre les médias conservateurs comme Fox News qui vont défendre cette réalité alternative et les médias comme CNN, MSNBC, le Washington Post, etc. qui vont défendre une vision du réel, enfin des faits réels. Donc c'est intéressant d'avoir cette différence entre des faits réels et des faits alternatifs.
Oui.
Comment on peut avoir...
Parce que c'est soit l'un soit l'autre, soit c'est un fait, soit c'est alternatif.
Soit c'est pas un fait.
On est dans l'oxymore.
Exactement. Mais avec la présidence Trump, on arrive à un régime de post-vérité où on peut avoir deux régimes de vérité qui s'affrontent. Et ça, Trump l'a déroulé sur divers champs. On a aussi la science, hein. Il a dit que la science avait tort. Mm-hmm. Donc, il installe son régime de vérité propre, qui est aussi une tendance des populistes, hein, de marteler un récit contrefactuel, et qu'il va essayer de faire passer, d'installer, de faire circuler par le biais de médias qui lui sont acquis.
Ce qui est très intéressant de souligner dans l'extrait qu'on vient d'écouter, on l'a moins entendu parce que nous avons été obligés évidemment de traduire l'extrait vu que c'était en anglais, c'est le ton de Sean Spicer, à la fois autoritaire et exalté. Et ça aussi, c'est nouveau, et ça indiquait que ce que voulait Donald Trump, c'était imposer sa vision des choses, sans discussion, sans critique possible. Et pour ça, il a créé quelques canaux de communication, de propagande même. Lesquels ?
Alors, il a notamment créé, alors c'est son équipe de campagne, donc c'est pas lui directement, mais un programme de propagande qui était diffusé sur le site de la Maison Blanche, ou en tout cas sur la page Facebook, qui s'appelle Real News, et qui est présenté par, alors il me semble que c'est sa belle-fille, Laura Trump, et qui est un condensé chaque semaine de son action, et c'est présenté comme une forme de... Bah, il est présenté à la manière du leader nord-coréen, hein, c'est le chef, leader, ouais. qui réussit tout, qui a une politique qui fonctionne sur tous les sujets, et évidemment... Ça désigne des opposants à la vindicte populaire. Donc les démocrates sont toujours perçus comme des opposants systématiques. Les médias sont perçus comme des opposants perfides, etc. Ouais.
On va parler de Twitter tout à l'heure. Juste un mot. Real News Update. C'était présenté par qui ?
Laura Trump, qui est la belle-fille, il me semble.
Laura Trump, voilà, qui est pas forcément journaliste.
Ah non, qui n'est pas du tout journaliste.
C'était pour cela que je posais la question à dessein. On va parler de Twitter, Trump et les médias. C'est signé Alexis Pichard. On continue dans Culture Média à en parler, à tout de suite. Trump et les médias, l'illusion d'une guerre, c'est le sous-titre de cet ouvrage d'Alexis Pichard, notre invité. On parle justement de Donald Trump et des médias traditionnels, mais il y a aussi les réseaux sociaux dont s'est beaucoup servi le président avant et après son élection. Un en particulier, Twitter, il a failli en être banni, on va y revenir. C'était un moyen pour lui de court-circuiter les médias traditionnels. Près de 25 000 tweets en 4 ans, 88 millions d'abonnés. Est-ce que Trump, en dehors de lui-même, a fait évoluer les usages sur Twitter ?
C'est une question aussi très complexe, mais je vais essayer d'y répondre simplement. Alors, il faut dire que Twitter, ça a été son moyen de contournement des médias, des grands médias, comme vous l'avez dit, et ça participe aussi de sa pratique politique populiste, c'est-à-dire essayer de faire corps avec le peuple directement, essayer d'être l'homme-peuple, et par ce biais, justement, il a réussi à s'adresser directement à ses électeurs. Mais il y a aussi une autre facette de cette stratégie, c'est-à-dire que Twitter, c'est le réseau des journalistes. Donc, en postant sur Twitter plutôt qu'en faisant des déclarations dans des conférences, il était sûr qu'il allait être repris instantanément par tous les médias. Donc ça, à mon avis, ça a surtout changé la pratique journalistique et la pratique politique, parce qu'on a vu que depuis quelques années, la plupart des politiques se sont mis sur Twitter, et ils ont adopté aussi certains codes de la politique spectacle, en cherchant le buzz, en cherchant le clash, etc. Donc c'est aussi un moyen d'exister politiquement qui s'est développé, même chez les politiques français.
Et même chez ses opposants, même chez les démocrates ?
Même chez les démocrates, alors on voit que notamment chez les jeunes démocrates, comme Alexandria Ocasio-Cortez, qui utilise également les réseaux sociaux et notamment Twitter pour faire des déclarations à l'emporte-pièce, pour être, en tout cas pour exister politiquement et médiatiquement avec c'est le principe de Twitter, hein, les 280 caractères. Donc ça permet d'être à la fois efficace, d'être reconnu et d'avoir le sens de la petite phrase. Donc ça, en fait, ça dévoie un peu le contenu, mais ça permet d'envoyer un message par le contenant.
Que pensez-vous, Alexis Pichard, de la décision de Twitter de fermer le compte de Donald Trump? C'était la semaine dernière, pour ne pas avoir respecté les règles d'utilisation du réseau.
Alors, à titre professionnel, ils ont respecté la loi parce qu'ils ont un règlement intérieur. Donc, Mark Dorsey disait d'ailleurs hier qu'ils avaient appliqué simplement
le patron de Twitter.
Exactement, le règlement. Donc, après plusieurs avertissements, il faut d'ailleurs se souvenir que cette décision intervient après 6 ou 7 mois de censure régulière des tweets de Trump. Donc, ça a commencé un petit peu avant l'été 2020 et ça s'est prolongé jusqu'à maintenant. Donc, c'est pas quelque chose qui est une décision qui a été prise.
Mais c'était vraiment une décision ou c'était un prétexte ? Pourquoi ne l'ont-ils pas fait précédemment ? Est-ce qu'ils ne l'ont pas fait une fois qu'ils savaient qu'il allait partir et qu'il ne serait pas là pour 4 ans de plus ? Pardon de poser la question directement.
Il y a certainement un enjeu commercial, c'est-à-dire qu'ils ont peut-être cherché à se prémunir d'une mauvaise relation avec la future administration, sachant qu'il y a enjeu sous l'administration Biden, la fameuse section 230 de la loi sur l'Internet de 96, qui fait en sorte que les médias, réseaux sociaux, ne sont soumis à aucune censure et à aucun contrôle de l'État. Ouais. Ce qui est la différence différence avec les médias traditionnels qui sont soumis au CSA américain, qui est la FCC. Et donc, c'est sur ça que voudrait, que voulait revenir Trump, qui n'a pas réussi, et que voudrait aussi revenir une partie des démocrates et Biden. Donc, peut-être que, en soyant un petit peu les relations avec la nouvelle administration, ils espèrent que cette section 230 ne sera pas révoquée.
Il y a un mot que vous citez pour comprendre le rapport qu'entretient Trump avec les médias, c'est très debordien, je fais référence à Guy Debord, c'est le spectacle. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi c'est éclairant ?
Alors je fais la référence effectivement à Guy Debord, donc la société du spectacle, parce que Trump est pour moi l'incarnation de cette politique spectacle, c'est-à-dire que quelqu'un qui se met en scène de manière systématique, donc quelqu'un qui va occuper l'espace médiatique et quelqu'un qui se marchandise. Avec Trump, c'est quelqu'un qui est, il faut pas oublier que c'est un homme d'affaires, hein. Donc tout est marchandisé. Mm-hmm. Son nom est marchandisé, on l'a vu, c'est une marque d'hôtel, c'est une marque même de steak, d'eau, etc. Donc c'est quelqu'un qui a une intention de marchandisation de son être, de son image, et c'est ça qu'il a finalement transporté, qu'il a téléporté lors de sa présidence, cette idée de devenir un président spectacle, de devenir un président de marque, qui fait vendre quoi ? Bah, des produits dérivés aussi, des t-shirts, des casquettes, hein, on se souvient de la casquette rouge, mais qui vend aussi sa présidence comme une sorte de télé-réalité permanente. Donc un divertissement qui produit des audiences, qui produit des revenus. Et ça, on l'a vu notamment pendant 4 ans avec toute la mise en scène des clashs, etc. Donc c'est pour moi, voilà, c'est ça que j'appelle la politique spectacle et la présidence spectacle.
Et ce que vous dites, c'est que la présidence Trump a été produite comme une télé-réalité. Trump s'est attaqué également aux grands médias américains et particulièrement à l'un d'entre eux.
CNN's fake news. You're CNN. You're fake news. CNN is fake news. I'm the president and you're fake news. CNN is fake news. Don't talk to me.
CNN désigné comme fake news, CNN symbole des attaques répétées de Donald Trump. Et face à cela, avant que je vous donne la parole, CNN a fait elle-même évoluer sa communication. Exemple.
This is CNN, the most trusted name in news.
CNN, j'arrive pas à le traduire dans mon un mot, le média le plus, ceux qui priment, ce sont les faits. Est-ce qu'elle a eu raison de réagir à la communication de Donald Trump?
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut se souvenir que, on parlait tout à l'heure de The Apprentice, donc qui était l'émission de télé-réalité qui a fait vraiment émerger Trump en personnalité populaire. C'est qu'elle a été validée par Jeff Zucker, qui était à l'époque le directeur de NBC et qui est aujourd'hui le directeur de CNN. Donc, il y a aussi ce passif dont il faut en tenir compte. Et pour répondre à votre question, donc CNN s'est positionné comme le principal opposant à Trump pour exister aussi d'un point de vue médiatique. On sait que CNN, ce n'est plus la chaîne d'information par excellence, hein. Elle a été dépassée par Fox News et elle tend à être dépassée aussi par MSNBC. Donc se positionner en principal opposante, ça a été aussi une manière de jouer la concurrence et de rappeler au public, aux auditeurs et aux téléspectateurs démocrates et progressistes quelle est la référence. Mmh.
Est-ce que ça a marché ? Comment se porte la chaîne aujourd'hui ?
Alors, elle se porte bien. Ses audiences ont vraiment évolué, mais un peu comme...
Donc, il y a eu un effet Trump.
Il y a eu un effet Trump, mais ce qui n'est pas circonscrit à CNN, qui a été largement partagé par d'autres chaînes et d'autres canaux progressistes. Et peut-être une dernière chose, c'est qu'on observe, et ça, j'en parle dans mon livre, une spectacularisation aussi de ces chaînes, de ces réseaux progressistes, qui étaient jusqu'alors un peu l'apanage des réseaux conservateurs. Donc, c'est-à-dire une parole plus hystérisée, une polarisation des interlocuteurs. Et on l'a vu notamment par de multiples séquences où on voit les présentateurs fondre en larmes après des déclarations de Trump. Donc vraiment le spectacle. Hein. Et qui, eh oui, oui.
Attendez, vous le dire que ça, c'est mise en scène ? Vous voulez dire que c'est pas du journalisme sincère ? Et que les larmes sont des larmes de comédiens plus que de journalistes ?
Le seul précédent qu'il y avait, c'était Walter Cronkite qui avait pleuré lorsqu'il avait annoncé la mort de Kennedy. Et depuis l'élection de Trump, ça s'est multiplié sur des chaînes de CNN.
Très intéressant sujet. Fake news n'était pas seulement destiné à CNN, mais également à d'autres chaînes de télé qui étaient visées, MSNBC notamment, des journaux également, le Washington Post, le New York Times. Le New York Times, souvent décrit comme défaillant par Trump. Mmh. Or, jamais le journal ne s'est aussi bien porté. 7 millions d'abonnés en novembre dernier, c'est près de 5 fois plus que fin 2016 quand Trump est arrivé à la Maison Blanche. D'autres médias américains ont profité du mandat de Trump pour se renforcer, comme le Washington Post. Quelles ont été leurs stratégies pour résister aux attaques de Trump, ou est-ce qu'au contraire ils ne souhaitaient pas y résister et prendre les coups, parce que c'est spectaculaire de prendre des coups?
Ils ont cherché les coups, ça c'est sûr, parce que c'est une forme de promotion inespérée, et quand on se place comme résistance face au pouvoir autocratique, hein, c'est comme ça qu'ils l'ont qualifié, autocratique de Trump, c'est un argument de vente. Donc effectivement, à mon avis, il y a quand même un fond de sincérité, c'est-à-dire que les médias ont un rôle de contre-pouvoir et ils l'ont exercé. C'est les gardiens de la démocratie américaine. Hein, ils sont d'ailleurs protégés par la Constitution. Donc ils ont affirmé c'est leur prérogative et leur droit de, enfin leur devoir de protection de la démocratie. Mais en même temps, ils se sont aperçus que c'était aussi un argument marketing. Donc ils l'ont filé pour justement accroître leur profit, tout à fait.
Filé comme on file une métaphore. Et si, pour finir, impossible de parler de Trump et des médias sans évoquer la chaîne Fox News. Le générique principal de Fox News, chaîne conservatrice qui a ouvert son antenne à Donald Trump. Tiens, je me mets à parler comme si j'étais sur Fox News. Le générique est surstressant.
Galvanisant.
Chaîne qui a accompagné son ascension politique. À quel point l'a-t-elle favorisée?
Ah bah, elle l'a favorisé dès l'élection. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Fox News n'avait pas vocation à défendre Trump au début de la campagne. C'est une chaîne qui quand même défend une certaine establishment républicain, donc qui défendait les candidats entre guillemets naturels comme Jeb Bush et Ted Cruz. Mais dès lors que ces candidats se sont effondrés, ils se sont ralliés immédiatement à Trump. Donc c'était un choix finalement de un second choix, mais depuis ils ont été quand même très très favorables à Trump.
Et là où c'est très très intéressant, c'est que depuis ils ne sont plus favorables à Trump. Il les a même désignés comme des pseudo-ennemi Donald Trump.
Et oui, ce qui pose un problème pour le positionnement futur de Fox News, parce qu'elle commence à être... Elle a laissé un espace à sa droite, qui a été occupé par One American News et Newsmax, et on voit qu'elle ne peut pas rivaliser avec ses concurrentes progressistes, parce qu'elle ne vise pas le même public. Donc là, elle est un peu en train de se dire, est-ce que je dois passer franchir le Rubicon et me droitiser en diffusant que des émissions d'éditorialistes et d'opinion, ou bien est-ce que je dois être du côté des chaînes normales, sachant que ce n'est pas cette stratégie qui semble fonctionner. Donc là, ce qu'elle a décidé hier, notamment sous l'influence de Rupert Murdoch, c'est de généraliser sa stratégie d'émission d'opinion, qui fait son succès en prime time et qui est portée par des encenseurs du Trumpiste. Donc on voit que, comme Sean Hannity, Lauren Graham et Tucker Carlson...
Et je vous interromps d'un mot, une chaîne d'opinion, mais de droite. Pas une chaîne de toutes les opinions. On finira là-dessus.
Ah non, mais oui. De toute façon, la polarisation des médias depuis les années 80 a mené à cette scission entre deux chambres d'écho, une chambre d'écho progressiste et une chambre d'écho conservatrice réactionnaire.
Très belle image pour comprendre les médias américains, ces deux chambres d'écho antinomiques. Merci beaucoup Alexis Pichard, docteur en civilisation américaine, chercheur associé à l'Université Paris-Nanterre et auteur de cet ouvrage « Trump et les médias », c'est publié par VA Éditions. Dans un